A passenger has died. He was murdered.
Miss Marple!
Monsieur Poirot!
Un thé avec Agatha Christie.
I am Agatha Christie.
Sonia Fairchak.
Elle a écrit Le crime de l'Orient Express et le meurtre de Roger Ackroyd. Mort sur le Nil, et ils étaient 10. Des chefs-d'œuvre de la littérature policière, des chefs-d'œuvre tout court. Elle, c'est Agatha Christie, la romancière la plus lue au monde. Aujourd'hui encore, ses livres continuent de se vendre comme des petits scones, à raison de 4 millions par an. Et si vous allez à Londres, on vous conseillera sûrement d'aller voir La Souricière, The Mousetrap, un monument du théâtre signé Christie, qui fête 75 ans de représentation. Alors que dans quelques jours, nous célébrerons les 50 ans de sa disparition, je vous invite à mener l'enquête, à l'heure du thé, en explorant sa vie, son œuvre et les raisons de son incroyable succès. Bonjour, bienvenue dans un thé avec Agatha Christie.
France Inter, un thé avec Agatha Christie. Épisode 2, double jeu.
Dans les romans d'Agatha Christie, nombreux sont ceux qui font semblant d'être quelqu'un d'autre. La romancière est fascinée par les doubles, ça n'est rien de le dire. Des événements de sa vie l'auraient-ils mise sur la piste de vol d'identité? C'est ce que nous allons tenter d'élucider ensemble dans un premier temps, avant d'inviter le romancier Ali Rebehi, qui porte effectivement une double casquette de journaliste radio et d'écrivain. Quant à son héroïne, Tante Alice, ne serait-elle pas un peu le double de Miss Marple?
Le jeu de la sorinée? Mais qu'est-ce que c'est? Les matchs, dis-moi.
C'est quoi ce jeu que t'as inventé? Comment joue-t-on? Et d'abord, ma sorinée, c'est toi.
Chut! Ne parle pas si fort, Agatha. Je vais te confier un secret. Non, l'aînée, ce n'est pas moi. Il y a une autre fille, une autre sœur, née avant moi. Elle est la sœur aînée.
Mais comment s'appelle-t-elle? Comment est-elle? Pourquoi je la connais pas?
On ne l'appelle que comme ça, la sœur aînée. Il paraît qu'elle me ressemble, à tel point qu'on nous confond. Rien ne permet de nous distinguer. Rien, sauf la voix. Sa voix n'est pas du tout comme la mienne. Et puis, c'est un grand malheur, Agatha. Notre sœur aînée est un peu... comment dire... dérangée.
Elle est folle, tu veux dire?
C'est ça, folle. Complètement folle. C'est pour ça que papa et maman n'en parlent jamais. Elle ne peut pas vivre avec nous.
Mais elle vit où alors?
Tu vois les falaises de Corbin's Head, au-delà de la plage? Elle vit là-bas, toute seule, dans une grotte.
Dans une grotte, c'est horrible. On peut pas la voir alors?
Si, si. Elle vient à la maison parfois. Mais quand? Ça, on ne sait pas. On ne peut jamais prévoir. Ni le jour, ni l'heure. Sois sur tes gardes, Agatha.
Je peux entrer? Je suis votre sœur aînée. Agatha, je sais que vous êtes là.
Arrête, Madge, je sais que c'est toi.
Madge? Qui est cette Madge dont vous parlez? Je ne la connais pas. Margaret est-elle là? À moins que... seriez-vous seule, Agatha? Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Je suis ta sœur Margaret. Tu ne me prendrais pas pour quelqu'un d'autre, par hasard. Tu ne penserais pas ça.
On vient d'entendre Madge et Agatha jouer pour la première fois au jeu de la sœur aînée. Nous sommes en 1895 à Ashfield, inoubliable maison de leur enfance, située dans la baie de Torquay. C'est Margaret, surnommée donc Madge, 16 ans, qui a inventé le jeu pour sa petite sœur, Agatha, 5 ans. un jeu pervers et fascinant. Madge Miller a le chic pour poser des questions qui, en elles-mêmes, n'ont rien de menaçant, mais sa voix insinue laisse planer le doute. Tout est trouble. Parfois, la sœur aînée disparaît. Des semaines durant, la Benjamine reste sans nouvelles d'elle, dans l'attente. Insupportable. La petite Agatha tourne autour de Madge comme un moucheron, un soir d'orage.
Dis, elle va bientôt venir, la sœur aînée?
Je ne sais pas. Tu voudrais qu'elle vienne?
La demande n'est jamais immédiatement satisfaite. Madge ménage ses effets. Déjà loufoque, la jeune fille rentre dans la peau de son personnage avec un talent presque dérangeant. Petite parenthèse d'ailleurs. Peu de temps avant qu'elle n'invente son jeu sinistre, Madge est rentrée de Paris où elle avait passé plusieurs mois dans un pensionnat chic. Son arrivée à la descente du fiacre qui la ramène à la maison fait forte impression sur sa petite sœur.
Margaret portait un drôle de petit chapeau de paille et une voilette blanche à pois noirs. C'était une autre personne.
Tiens, tiens, une autre personne ? La sœur aînée va tomber à point nommé. Fin de la parenthèse. En attendant, Agatha la réclame, la sœur aînée. Madge ne dit pas non. Et le jeu horrifiant va durer. Des années plus tard, il suffira que Margaret prenne la voix veloutée et onctueuse de son sosie maléfique pour que la reine du crime elle-même soit parcourue de frissons. Avec le personnage de la sœur aînée, Madge Miller introduit l'idée du double dans la sororité. Un double, c'est un autre soi-même, mais pas tout à fait. C'est un presque soi. Il se trouve que Madge écrivait de son côté. Elle a été publiée, et bien avant Agatha, vu leur différence d'âge. Agatha aurait-elle redouté de n'être que le double de sa brillante sœur aînée? A-t-elle eu peur d'être doublée par Madge? Il y aurait de quoi. Quand jeune fille, Agatha s'essaye à composer des poèmes, des nouvelles, elle utilise la machine à écrire de sa sœur, une vieille bécane de Marc Empire. Et c'est encore le cas quand elle rédige son premier roman. Elle tape la mystérieuse affaire de Styles sur la machine de sa sœur. Autre motif de rivalité. Quand Margaret voit ses nouvelles publiées dans le magazine Vanity Fair, elle signe ses textes Miller, quoi de plus naturel. Mais quand Agatha sera publiée à son tour, en 1920, damn it, quel nom utiliser ? Son patronyme est déjà pris. Je continue. La décidément talentueuse Margaret Miller écrit aussi pour le théâtre. Et avec succès. Deux de ses pièces sont montées dans le très chic West End de Londres, le quartier des théâtres. L'une d'elles, jouée en 1924, est intitulée The Claimant, le demandeur. Son sujet, je vous le donne en mille. L'intrigue repose sur le soupçon d'une substitution d'identité. Encore une histoire de double. La question a pu se poser. Laquelle des deux sœurs Miller serait-elle sacrée reine du crime ? Christy le rappelle suffisamment. Sa sœur était considérée comme le cerveau et l'artiste de la famille. Dans le portrait qu'elle dresse de Madge, l'écrivaine loue avec admiration les indéniables qualités littéraires de son aînée. Il n'y a d'ailleurs aucun doute que les deux sœurs s'aiment profondément. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, la romancière ne peut pas s'empêcher de s'interroger. Madge aurait-elle continué à écrire si elle ne s'était pas mariée ? Ouf, ça n'est pas arrivé. Agatha n'en a pas fini avec le sujet du double. Autre expérience étrange et terrifiante qu'elle a vécue enfant, le cauchemar de l'homme armé. Même s'il ne s'agissait que d'un rêve, la romancière a beaucoup intrigué ses biographes avec son fameux cauchemar du gunman, l'homme armé, figure menaçante qu'elle reprendra dans plusieurs romans.
Je l'appelais l'homme armé à cause du fusil qu'il portait. Non que ce fusil me menaçât en quoi que ce soit. Cette arme faisait partie de son image. Le rêve avait un cadre ordinaire. Un goûter, une promenade avec des gens, en général une réjouissance quelconque. Puis, un sentiment de malaise survenait soudain. Quelqu'un était là. quelqu'un qui aurait dû ne pas y être. J'étais prise d'un horrible sentiment de peur, alors je le voyais. Assis à table, marchant le long de la plage, prenant part au jeu, ses yeux bleu pâle croisaient les miens et je m'éveillais en hurlant « L'homme armé ! L'homme armé !» Peu à peu, le rêve devait changer. Je levais les yeux sur un ami ou un membre de la famille et m'apercevais soudain que ce n'était pas Dorothy, Phyllis, Monty, ma mère ou la personne en question. Les yeux bleu pâle qui me fixaient dans ce visage familier, sous cette apparence familière, étaient ceux de l'homme armé.
Enfin, les dernières expériences de double jeu ou de double vue que subit Christie ont lieu en 1926. J'ai commencé à vous le raconter hier, 1926 est une année noire pour Agatha. En avril, Clarissa Miller, sa mère adorée, meurt. La romancière quitte Londres pour se réfugier à Ashfield. Archie la rejoint un peu plus tard. L'homme qui se présente devant elle est bien son mari, le désormais colonel Archibald Christie. Pourtant, au moment où elle croise son regard, elle repense à son vieux cauchemar d'enfance. Et si l'homme qu'elle avait en face d'elle lui était en réalité totalement étranger ? L'impression est forte. Elle ne se l'explique pas, mais sûre. Quand elle le voit à ce moment-là, Archie lui semble être quelqu'un d'autre. Il la salue. Oui, quelque chose en lui est changé. Même Madge, qui est présente à ce moment-là, le remarque. Effectivement, 48 heures plus tard, Archibald annonce à Agatha qu'il la quitte pour une jeune secrétaire. Elle s'appelle Nancy Neal. Il est temps de revenir, comme promis, sur la fameuse disparition d'Agatha Christie. Elle a lieu quelques mois après qu'Archie a sonné le glas de leur mariage. En ce début d'hiver 1926, mari et femme vivent encore plus ou moins ensemble à Sunningdale, dans le sud-ouest de Londres. Le 3 décembre, Agatha quitte le domicile conjugal tard dans la soirée, en voiture, sans rien dire à personne. Au petit matin, sa voiture est retrouvée au bord d'un étang, The Silent Pool, le bassin silencieux, un nom angoissant, à une quinzaine de miles de chez elle. À l'intérieur du véhicule, son manteau, une valise, son permis de conduire. Il est d'ailleurs périmé. Aussitôt, la presse se passionne pour l'événement.
Le 4 décembre 1926, la célèbre romancière Agatha Christie disparaissait mystérieusement sans laisser de traces. Fugue, crime, suicide, enlèvement. Pendant 11 jours, ces hypothèses furent avancées par toutes les polices. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier.
Nous venons d'entendre un extrait de la bande-annonce du film intitulé Agatha, de Michael Apted, sorti en 1979 avec Vanessa Redgrave, Dustin Hoffman et Timothy Dalton. Les journalistes vont donner à la disparition d'Agatha Christie une portée inouïe. La jeune autrice va se trouver propulsée au rang de célébrité, ce dont, au bout du compte, elle se serait bien passée. Son évaporation va complètement lui échapper. En 1926, certes son sixième roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, vient de triompher. Mais en termes d'attention, aucun livre n'égalera la disparition de la romancière qui, pendant 11 jours, va tenir en haleine l'Angleterre, la terre entière. Des milliers de policiers sont mobilisés, 15 000 volontaires, des détectives, des journalistes donc, des médiums et des chiens qui vont arpenter le pays, fourré par fourré. D'innombrables personnalités sont interrogées. Des auteurs de romans policiers sont sollicités, comme la collègue d'Agatha, Dorothée Sayers, ou même Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes. Que s'est-il passé ? Christie ne s'en expliquera jamais. Mauvais coup qu'elle a imaginé pour se venger de son mari ? Accès de dépression profonde ? Un peu des deux ? reste qu'au bout de 11 jours, elle est retrouvée. L'écrivaine s'était réfugiée au Swan, un hôtel thermal d'Harrogate, dans le Yorkshire. Là, les enquêteurs découvrent que la romancière s'est enregistrée sous le nom de Mrs. Neal. Neal, comme Nancy Neal, le patronyme de la maîtresse de son mari. Agatha a usurpé l'identité de celle qui lui a ravi l'amour d'Archie. Sur le registre, la légitime s'est faite le double de l'illégitime. Et ça n'est pas encore fini. À Harrogate, après qu'un employé du Swan a reconnu la romancière, le colonel Christie file en direction du nord. Arrivé dans le Yorkshire, c'est la Bérésina. Agatha a complètement perdu la mémoire. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Pire, son amnésie semble si sérieuse qu'elle ne reconnaît pas son mari. Agatha fait comme si cet homme qui a traversé une bonne partie du pays pour venir la chercher n'était pas Archibald Christie. Si je fais le compte, ça fait beaucoup. Madge est la sœur aînée. L'homme armé, Archibald part deux fois et Mrs. Neal. La vie d'Agatha est traversée de double.
France Inter. Un thé avec Agatha Christie. Sonia Fairchak.
Je reviens au premier double rencontré par la future romancière, l'angoissante sœur aînée, incarnée par une Madge plus duplice que jamais. Dans son autobiographie, Agatha consacre 30 lignes à ce double jeu. 30 lignes, pas une de plus, au cœur de 650 pages. Simple anecdote alors ? Pas vraiment. En examinant l'œuvre de Christie, on s'aperçoit que la sœur aînée a fait des petits. Sur 66 romans, 25 mettent en scène un personnage qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre, qui joue double jeu. 25 intrigues qui donnent lieu à une substitution d'identité. Et une substitution qui n'a rien d'un jeu, évidemment. Dès son premier roman, La mystérieuse affaire de Styles, au moins un protagoniste dissimule sa véritable identité pour de sombres motifs. Une autre intrigue met carrément en scène deux jumelles, dont l'une n'est pas très sympa. Je dois préciser que les deux sœurs avaient également des voix que l'on pouvait confondre avant un personnage. Cette affaire de voix n'est sûrement pas un hasard. Agatha prétend qu'elle y est très sensible. Une vilaine voix lui inspire davantage de répulsion qu'un vilain visage. Allez savoir pourquoi. Au demeurant, elle a raison. Qu'elle soit limpide ou au contraire onctueuse, une voix ne ment pas. À la radio, tout le monde sait cela. Qu'un proche ne soit pas celui qu'on croit, voici une question qui obsède tout bonnement Agatha Christie. Vu les expériences qu'elle a vécues, en même temps, il y a de quoi. Du jeu de la sœur aînée, de l'homme armé et des histoires de double qui ponctuent sa disparition, la romancière tire trois vérités qui posent les bases de ses intrigues. 1. Il est parfaitement envisageable d'afficher une double identité. Il suffit de bien travailler et jouer son personnage. 2. On ne connaît pas si bien que ça ceux qui partagent notre vie. 3. Ceux que nous aimons et qui nous aiment aussi, en tout cas c'est ce qu'on croit, ne nous veulent pas toujours du bien. Le point numéro 1, la double identité, reste assez rare dans la vraie vie, et tant mieux. En revanche, les points 2 et 3 sont plutôt courants. Et non, on ne peut jamais être sûr de connaître parfaitement les siens. Voilà pour le point numéro 2. Et puis l'ambivalence, même entre proches, ça existe. Point numéro 3. De l'agacement à l'inimitié, toutes les douleurs ne mènent pas au crime, heureusement. Il n'empêche qu'elles font partie de la nature humaine. Ah, la nature humaine. Ça, on en entend parler dans les romans d'Agatha Christie. Jane Marple et Hercule Poirot n'hésitent pas à rappeler que sur le sujet, ils en connaissent un rayon. Marple, catégorique, avance que la nature humaine est la même partout. Tandis que Poirot confirme qu'un mandat de perquisition vous permet de découvrir des aspects cachés de la nature humaine. Les deux détectives sont les champions de la lucidité. J'y reviendrai. Une qualité particulièrement répandue chez les sujets de la reine Victoria, selon Agatha, qui s'est toujours qualifiée, elle-même, de victorienne. Elle assume d'être de la vieille école, pas uniquement. Et j'espère vous en convaincre d'ici la fin de la semaine. Dans ses romans, les bons sentiments avoisinent les mauvais. Et trois passions tristes tiennent le haut du pavé. L'envie, la jalousie et la rivalité. Chez les hommes, chez les femmes, de 7 à 77 ans, Christie ne les nie jamais. Grande lectrice de Shakespeare, l'écrivaine décrit comme personne les torturés de la comparaison. Évidemment, les personnages concernés ne crient pas sur les toits leurs ressentiments. Ils les cachent. Aux yeux de leurs proches, ils font comme si aucune jalousie, aucune envie mauvaise ne les rongeait. Ils jouent double jeu. C'est la première façon qu'a Agatha Christie de déployer le concept de double dans ses textes. Quasiment tous ses protagonistes jouent double jeu. Le visage humain est-il autre chose qu'un masque ? Interroge Peter Lord dans « Je ne suis pas coupable ». C'est un peu obligé. Chacun a ses petits secrets qu'il n'a pas du tout envie de voir dévoilés. Or, le meurtre tombe mal. Il amène la police à fouiller. Partout. Et à poser des questions. Beaucoup trop.
Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez bien me suivre ? Vous aussi, madame.
Henri, c'est l'inspecteur Grange.
Commandant.
Voilà. Si on pouvait ne pas citer mon nom, au moins au début de l'enquête, éviter les médias.
On fera tout notre possible.
Oh, merci. Où emmenez-vous Claire ?
Pour le moment, on garde à vue.
Elle a avoué ?
Elle a perdu la parole.
On a trouvé ça, ça veut dire quelque chose ?
Ah bah ça, c'est Léopold.
Pardon ?
Smith & Wesson, 38 spécial. Grosse plaque et bois. J'ai vu d'œil, c'est Léopold. Enfin, je veux dire, il provient bien de ma collection. Oui, je t'en donne des noms.
Ah. Vous avez bien entendu tous les permis nécessaires pour les armes de cette catégorie, hein ? Certificat d'enregistrement, enfin, tout le bazar.
Et bien entendu, je suis sénateur de ce département. Je suis parfaitement en règle. Ça fait plus de 20 ans que j'ai les armes à feu.
Je t'ai toujours dit qu'un jour, il y aurait un accident.
Pas un accident, madame. Un meurtre.
Dans cet extrait du Grand Alibi, un film de Pascal Bonitzer tiré du roman d'Agatha Christie, Le Vallon, tous les personnages sont duplices. Tous ont quelque chose à cacher. Un désir, un amour, un vice, une vilenie et un crime. Bien plus terrible, dans les romans d'Agatha, beaucoup se retrouvent remplacés. À leur corps défendant, il y a substitution d'identité. Ici, une comédienne se fait passer pour une autre comédienne. Là, c'est une infirmière qui a pris la place d'une héritière. La comédienne et l'héritière se retrouvent dotées d'un doppelganger. Littéralement, en allemand, un double qui marche. Le concept a connu un immense succès dans la littérature du 19e siècle. Agatha ne l'ignorait pas. Madge, encore moins. Des histoires de doppelganger, toutes les deux en ont dévoré. Madge, qui aux yeux de sa petite sœur s'est bien dédoublée. Charmante Margaret d'un côté, terrifiante sœur aînée de l'autre. À l'hôtel Bertram aussi, titre d'un roman tardif de Christie, le terme de doppelganger vient spontanément à l'esprit de Jane Marple, tandis qu'elle repense à une scène étrange à laquelle elle vient d'assister. En matière de double maléfique, le contexte historique dans lequel écrit Agatha lui fournit une bonne raison d'avoir recours au procédé. L'écrivaine publie 36 de ses 66 romans entre 1915 et 1945, soit entre les deux guerres mondiales. L'histoire avec un grand H lui donne raison. Des individus qui reviennent après être partis loin et longtemps, elle en connaît. Son frère et son mari les premiers. Et avec les années, on peine à reconnaître ses revenants. Un protagoniste du roman « Mrs. McGinty est morte » explique que la guerre a compliqué les choses. De nombreuses archives ont été détruites, ce qui offre d'infinies possibilités à ceux qui veulent couvrir leurs traces. Les cartes d'identité des personnes disparues sont un bon moyen de repartir à zéro. Il ne faut pas non plus oublier qu'en 1917, l'Empire britannique est à son apogée. Les Anglais passent parfois des années outre-mer, dans les colonies, avant de rejoindre leur pays d'origine. Résultat, il arrive qu'à leur retour, on ne les reconnaisse pas. Ils ne sont plus les mêmes. Agatha ne se prive pas d'utiliser le ressort dans plusieurs de ses textes. Les enfants ne sont pas épargnés par la possibilité d'un double. Chez la Reine du Crime, c'est une spécialité. Elle traite les enfants comme les adultes, ou presque. Ils sont des individus en devenir, oui, mais des individus à part entière. Et dans ses romans, Agatha fait d'eux des victimes, des témoins ou des assassins et ne leur passe rien. Les plus jeunes peuvent se voir ainsi affublés de mini-doppelgangers, appelés des changelins. Agatha envisage cette possibilité dans le roman La plume empoisonnée. La jeune Megan Hunter aurait-elle été échangée quand elle était bébé ? Pauvre petite chose abandonnée sur un seuil, pendant que les fées emportent au loin le vrai nourrisson. Dans la maison biscornue, la même suspicion plane sur la mal-aimée Joséphine Léonidès. Et dans Jeu de glace, c'est le pauvre Edgar Lawson qui pourrait avoir été échangé. Joséphine et Edgar, deux enfants très bizarres parmi tous les enfants bizarres dépeints par la romancière. Justement, pour un enfant, cette histoire de proches qui ne sont pas ce qu'on croit, c'est encore plus effrayant.
C'était les Beatles qui chantaient Strawberry Fields Forever en 1967. Vous êtes bien sur France Inter dans Un thé avec Agatha Christie.
France Inter, Un thé avec Agatha Christie. Épisode 2, Double jeu.
Enfant, Agatha n'a pas été épargnée par la peur. La vraie peur d'un danger auquel on croit est l'idée de la peur, qui fait délicieusement frissonner l'échine,
Mais en fait, non, pas tant que ça. Agatha a tremblé. Comme nous tous, mais elle s'en souvient comme si c'était hier. Dotée à la fois d'une vive imagination, d'une hypersensibilité, comme on dirait aujourd'hui, et d'une faculté d'observation décuplée par la timidité, Agatha Christie s'est fait remonter en elle le souvenir de ses peurs d'enfant. Une aptitude qu'elle va massivement exploiter dans son œuvre. Pour Agatha, les choses sont claires. Un individu qui se démène et divague, les cheveux mêlés de brins de paille et qui a l'air fou, n'a rien d'effrayant. Contrairement à une charmante vieille dame aux cheveux blancs qui, un verre de lait à la main, demanderait soudain « Est-ce votre pauvre enfant que l'on a enseveli derrière la cheminée ?» Puis sans attendre, elle murmurerait ce conseil « Ayez l'air de ne pas voir le sang !» Agatha Christie semble avoir été si frappée par cette figure de la vieille infanticide gourmande de produits laitiers qu'elle va l'utiliser dans 3 de ses romans. Fait très inhabituel de la part de la romancière. Mais la vieille dame apparemment charmante est raccord avec ses atmosphères. Dans ses textes, la peur n'est jamais spectaculaire. Elle est familière. Agatha Christie sait que le mal n'est jamais plus terrifiant que lorsqu'il rôde tapis au cœur du foyer. Quand la peur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. À ce titre, la nurserie mérite le détour. Chez Agatha Christie, la pièce réservée aux enfants est par essence un lieu d'inquiétante étrangeté. La romancière use et abuse de cette idée développée par Freud, le père de la psychanalyse. L'inquiétante étrangeté, ce sont des choses habituellement plaisantes et familières que nous trouvons soudain troublantes et angoissantes. Christie en livre l'air de rien, un exemple à dresser les cheveux sur la tête dans la dernière énigme. Gwen Darid recherche une location en Angleterre où, pour la première fois de sa vie, elle vient de débarquer. Elle a le coup de foudre pour une maison baptisée Hillside et elle s'installe. Quelques jours plus tard, dans la nurserie située au dernier étage, un ouvrier débloque un panneau. Gwenda n'en revient pas. Comment peut-elle avoir deviné le motif exact du papier peint qui orne le fond de ce vieux placard ? Bis repetita au rez-de-chaussée, comment sait-elle qu'il y avait une porte, pile à cet endroit, entre le salon et la cuisine de cette maison dans laquelle elle n'a jamais mis les pieds ? Rien de surnaturel là-dedans, évidemment. Mais Gwenda a raison de penser que ce qui semble relever de la prescience n'est pas de très bon augure. Dans le même ordre d'idées, la poupée qui tombe de l'intérieur du conduit d'une cheminée abandonnée dans le roman « Mon petit doigt m'a dit » donne le frisson. Et l'emploi des comptines comme trame des meurtres, cela relève magistralement de l'inquiétante étrangeté. C'est insensé de commettre des crimes en suivant les strophes d'une chanson pour bébé. Ce cri du cœur d'un personnage d'Ils étaient 10 est fondé. À partir de 1939, date de parution du célèbre roman, Agatha détourne les comptines de façon machiavélique. 5 petits cochons, Mrs. McGinty est morte. Une poignée de seigles, en tout 8 titres parmi les plus connus, tirent argument de nursery rhymes, des comptines censées amuser ou endormir les petits, mais qui se révèlent soudain morbides, mises en scène avec quantité de détails cruels.
Des vers lui trottaient dans la tête.
Extrait du roman Un meurtre est-il facile ?
Oh, pourquoi te promènes-tu dans les champs avec des gants ? Grosse femme à cheveux blancs qui n'est aimée de personne ?
Mentalement, elle fit la correction nécessaire. Miss Wenflet n'était pas grosse.
Vous avez sommeil, chérie ?
Le ton était aimable et banal, avec pourtant quelque chose d'insolite. Bridget ouvrit les paupières. Elle vit le visage de la vieille demoiselle briller d'un éclat inhabituel. Miss Wenflet reprit sa question.
« Vous avez très sommeil, n'est-ce pas ?»
Le ton, cette fois, ne permettait plus de douter. Pour Bridget, ce fut comme une illumination. Elle comprenait, et en même temps, elle se reprochait sa stupidité. Quelle idiote elle était !«
Le thé !»
songea-t-elle, tout à coup.
avec pourtant quelque chose d'insolite. Un détail. Une chose ne colle pas. C'est bizarre, ça. Il y a quelque chose qui cloche. Tiens, quelque chose ne va pas. Ah, ce quelque chose ne va pas. Dans les romans d'Agatha Christie, le détail perturbant sonne presque toujours le tocsin. Il n'y a pas, chez la reine du crime, de fumée sans feu. Quelque chose ne va pas, une de ses phrases favorites, s'entend alors de deux façons. Primo, ce quelque chose échappe à la compréhension. Secondo, ce quelque chose annonce du mauvais. Il n'est pas bon que les choses se passent de cette façon. D'ailleurs, l'assassinat ou la tentative d'assassinat du personnage perplexe tient lieu de confirmation. Dans les livres d'Agatha, le lanceur d'alerte a toujours raison. En termes de plaisir de lecture, le résultat est imparable. La perplexité qu'éprouve le protagoniste quand il note un détail anormal est, pour le lecteur, l'un des motifs les plus délicieusement terrifiants des romans. Surtout lorsque ce détail concerne un proche, un frère, un ami ou un conjoint qui n'est pas comme d'habitude. Qu'arrive-t-il à l'infirmière évoquée tout à l'heure ? Où est passée la photo de l'héritière ? Quant à la comédienne que je citais, cette femme est étonnante. Comment peut-elle se montrer si érudite en matière de culture antique lors d'un dîner et tout ignorer d'un événement archi-connu de la mythologie grecque lors d'une réception, à peine quelques jours plus tard ? L'indice qui éclaire Hercule Poirot dans ce dernier roman est si prodigieux qu'en 1961, le grand historien de l'art, Ernst Gombrich, en fait la pierre de touche d'un discours sur la culture générale qu'il prononce à la London School of Economics. Et pourquoi pas Evans ? S'interroge un mourant. Curieuse question.
Pourquoi ne pas avoir...
Pardon ?
Pourquoi ne pas avoir demandé à Evans ?
Et Evans ? Lui demander quoi ?
Quel titre extraordinaire quand on comprend le fin mot de l'histoire. De très nombreux romans de la Reine du Crime commencent de cette façon. Un personnage, saisi par une bizarrerie, un truc vraiment curieux, se tend, aux aguets. Il se met à scruter, comme Agatha quand petite, elle guettait la venue de sa sœur aînée, celle qui se tenait devant elle. Était-elle la vraie Margaret ou son sosie fou ? Apparemment, c'était la même jeune fille, mais incarnait-elle la joie ou la perversité ? La sécurité ou le danger ? Le salut d'Agatha ne provenait que de sa capacité à saisir ce qui établit la différence. Voix, intonation, position, en un mot, l'interprétation des détails. De petits riens, précise Poirot. Pas des cendres de cigarette ni l'empreinte d'un talon, mais un regard, un geste, un acte inattendu. Souvent, le truc qui cloche concerne davantage quelqu'un que quelque chose. Et ce détail infime est le signe annonciateur que quelqu'un n'est pas celui qu'il prétend être. Quelque chose ne va pas chez Christie annonce souvent qu'il y a du double dans l'air.
Dites-moi, madame... Vous rappelez-vous si quelqu'un s'est éloigné seul ce jour-là ?
Cora s'est écartée pour aller voir sa cabane. Georges s'est sauvé, bien sûr, mais c'était après l'ouverture. Et je me rappelle Susanna allant quelque part aussi. C'est insensé, il y a eu tellement d'allées et venues ce jour-là. Je sais que quelque chose ne tournait pas rond, je l'ai senti.
De quelle façon ça ne tournait pas rond, madame ? De façon imprévue, ou surprenante, ou sinistre ? Dites-moi.
Non, pas sinistre, non. Plutôt dans le sens de quelque chose qui ne serait pas tout à fait normal. Je n'ai pas pu trouver de quoi il s'agissait.
Essayez de ne pas y songer, c'est mieux. Tôt ou tard, ça vous... Comment dit-on ça ? Ça vous reviendra en mémoire.
Traduction littéraire de ce passage des indiscrétions d'Hercule Poirot, le personnage, alerté par une très légère perturbation de son univers familier, s'inquiète. Il, elle en l'occurrence, Hélène Abernethy, bascule lentement mais sûrement dans la paranoïa. Et le lecteur, happé, ne peut que basculer avec elle.
Parce que personne ne se voit jamais tel qu'il est, ou tel qu'il apparaît aux autres. Lorsqu'on se regarde soi-même dans un miroir, c'est toujours l'image inversée que nous voyons.
Monsieur Entwistle, s'il vous plaît. Gilbert.
Oh, Hélène. Mais qu'y a-t-il ?
Désolée de vous réveiller, mais vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Ça fait un moment que je réfléchis à ce qui m'a perturbée et gênée le jour des funérailles. Je viens de me souvenir de ce que c'était, mais ça n'a pas de sens. C'est à propos de la manière de...
Hélène ? Hélène, vous êtes là ? Allô ? Est-ce que vous allez bien ? Hélène ? Hélène ?
Kerenan, que la vie est belle sur France Inter. Nous sommes ensemble dans un thé avec Agatha Christie et il est temps de retrouver notre invité, une voix que vous connaissez bien.
France Inter. Un thé avec Agatha Christie.
Bonjour Ali Rebehi.
Bonjour Sana Ferchak.
Ce n'est pas au journaliste et producteur bien connu de cette station que je m'adresse aujourd'hui, mais à l'auteur de romans policiers, créateur du personnage et de la série Tantalis, dont les deux premiers volumes ont été publiés aux éditions du Masque. Le premier, Le bonheur est dans le crime, est paru en juin 2023, je vois que vous salivez. Le deuxième, Meurtres en chaîne, est paru en mars 2025. Ali Rebehi, pour commencer, est-ce que vous auriez un souvenir d'Agatha Christie que vous voudriez nous faire partager ?
Alors Sonia, moi, le premier souvenir d'Agatha Christie, c'est pas un souvenir livresque, c'est pas un souvenir romanesque, c'est un souvenir de télé. Je me souviens, pour parler comme Pérec, je me souviens de l'adaptation du Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet en 1974. Hercule Poirot, interprété par Albert Finet. Je devais avoir 9-10 ans et j'étais captivé totalement, évidemment, par l'intrigue, mais aussi par le décorum, par les costumes, par la magnificence du train de luxe de l'Orient Express. Ça me faisait rêver à cet âge-là. Et puis, j'ai adoré, bien sûr, comme tous les lecteurs et les spectateurs de ce film, de cette adaptation d'Agatha Christie, j'ai adoré le whodunit. Le whodunit, c'est qui l'a fait. Exactement. Et ce qui fait qu'avec ce type d'intrigue, on est captivé jusqu'à la dernière minute. Et puis un peu plus tard, Meurtre sur le Nil, qui est un peu moins bon peut-être, mais avec un Hercule Poirot que je trouve tout aussi merveilleux qu'Albert Finet, qui est beaucoup plus extravagant, c'est le personnage interprété par Peter Ustinov, absolument merveilleux. Donc moi, mon entrée dans l'univers d'Agatha Christie, c'est d'abord par les adaptations cinématographiques. Et ensuite, je me suis mis à la lire, mais c'est d'abord la télévision et les adaptations cinématographiques.
Alors, vous n'êtes pas le seul, Ali Rebehi, à avoir découvert Agatha Christie enfant. Mm-hmm. Et quelle fenêtre, est-ce que vous vous souvenez, quelle fenêtre sur le monde des adultes ça vous a ouvert ?
Eh bien, on découvre un monde sous une apparence absolument lisse, merveilleuse, dans des univers bourgeois, aristocratiques, ou bien, concernant Miss Marple, dans des univers champêtres, idylliques. On découvre des passions tristes. Or, je ne le formulais pas comme ça à l'époque, mais on se dit que le monde des adultes n'est pas aussi merveilleux que ce qu'il donne à voir. Et plus tard, moi, ce que j'ai adoré vraiment dans Agatha Christie, c'est ce décalage entre le joli vernis et les passions tristes que malaxe Agatha Christie.
Donc, en fait, vous décrivez un monde double, noir d'un côté et confortable, joli, élégant de l'autre, comme l'Orient Express. Et du coup, j'en viens à Tante Alice. Vous avez créé le personnage d'une célibataire d'un certain âge, proche de son neveu. Mm-hmm. Miss Marple est tante, elle aussi. Le seul lien de parenté qu'on lui connaît un peu, c'est Redmond West. Mm-hmm. Son neveu, qui est un auteur à succès, qui la prend un peu de haut. Votre tante Alice, elle a un neveu Arthur, qui est un psychologue clinicien.
Exactement.
À succès, qui ne la prend pas de haut, lui.
Mm-hmm. Et qui consulte dans leur maison commune.
Dans leur maison commune, et dont elle est donc très proche. Mm-hmm. Et ma question, c'est évidemment, est-ce que Tante Alice est une cousine éloignée de Miss Marple ? Comment vous est venu ce personnage ?
Alors, c'est évidemment une cousine assez éloignée de Miss Marple. Cousine éloignée d'abord parce qu'elle est, comme Miss Marple, une détective amatrice. C'est vrai que dans le cozy crime, pour le dire vite, le cozy crime, c'est le crime doux, entre guillemets. C'est un genre qui met en scène des détectives amateurs. Et c'est donc évidemment en lien avec Miss Marple, donc Alice Bonneville, qui est une ancienne professeure de droit pénal, qui est veuve, qui est célibataire, mais qui a quand même peut-être un peu plus de passion que Miss Marple, hein, parce qu'elle elle a des visées sur son ami Haroun Johnson, qui est un garçon qui était un ancien professeur de littérature, qui a ouvert un salon de thé dans la ville fictive de Valmont-sur-Loire. Et c'est vrai que le village de Sainte Mary Mead, le village de Miss Marple, c'est un pendant évidemment de Valmont-sur-Loing, parce que Valmont-sur-Loing, c'est un petit village près de la forêt de Fontainebleau qui n'existe pas. Moi, je tenais, comme dans Miss Marple, à un village fictif.
Imaginaire. Alors, justement, Cozy Crime, j'ai lu une critique que j'ai trouvée bien vue de Tante Alice qui disait « un roman savoureux », parce qu'on parle pas mal de nourriture, justement, « où l'on meurt, certes, mais aussi où il fait bon vivre. » Et j'ai trouvé que ça traduisait pas mal le cozy crime, justement. Est-ce que vous retrouvez ce grand écart chez Agatha Christie ?
Pour moi, c'est un beignet, Tante Alice ou Miss Marple. C'est un beignet fourré au fumier. C'est-à-dire que l'apparence, c'est merveilleux, un beignet. C'est appétissant, un beignet. On a envie de croquer dans un beignet. Mais quand on regarde le fourrage, c'est du fumier. C'est-à-dire que ce sont des passions tristes. C'est l'envie, c'est l'ubris, c'est l'appât du gain. C'est ce que j'aime, moi, dans le cozy crime. C'est que sous des allures polissées, quand on croque dedans, on se dit « Ah, tiens, c'est un drôle de goût, ce n'est pas fourré à l'abricot. » Et c'est ce que j'aime profondément, c'est ce décalage entre le cadre idyllique d'un village quasiment parfait, que ce soit dans la campagne anglaise avec Miss Marple ou du côté de Fontainebleau pour Tante Alice. Mais quand on gratte un petit peu, c'est pas si joli à voir. Et moi, j'aime beaucoup ce décalage, cet aspect double que l'on retrouve dans Miss Marple ou, dans une moindre mesure peut-être, dans Tante Alice Enquête.
Comment, justement, vous avez travaillé ça, ce côté double ? Comment Agatha a compté dans votre travail pour, justement, mettre en scène à la fois l'extérieur du beignet et puis l'intérieur, le fourrage au fumier ?
En fait, moi, je me suis inspiré de lieux que je connais, du côté de la forêt de Fontainebleau, avec des villages, parfois, qui ressemblent à des villages anglais, avec notamment des villas de style anglo-normand, au bord du Loing et au bord de la Seine. On les appelle les affolantes du 19e siècle. ce sont des maisons construites par de riches industriels et qui reprenaient les codes de l'Angleterre, en tout cas dans l'architecture. Donc ça a été le territoire, le lieu m'a fortement influencé. C'est comme ça qu'est né...
C'est intéressant ce que vous dites, parce que je ne sais pas si vous savez, mais Agatha Christie travaillait comme ça, c'est-à-dire que...
Je ne le savais pas.
Elle n'inventait jamais les lieux, elle inventait ses personnages, elle ne partait quasiment jamais de personnages imaginaires, mais elle partait toujours de lieux. Donc en fait, vous avez certainement fait...
C'est exactement le point de départ. Et c'est vrai que Tantalis, je voulais absolument une détective amatrice, femme, pour moi c'était très important, parce que c'est vrai, j'ai été très marqué par l'univers Christian, qui déborde les romans qu'on retrouve au cinéma, dans des séries télévisées comme Only Murders in the Building, diffusée sur Disney+, dans La Résidence, qui est diffusée sur Netflix... C'est-à-dire que cette Angleterre, évidemment, Only Murders in the Building se déroule pas en Angleterre, mais c'est un univers très chrestien.
Un peu Disney, vous disiez.
Très Disney, c'est-à-dire, en préparant cette émission, je vous ai dit qu'il y a un côté Disney, il y a un côté
lisse
en apparence. C'est ça qui m'a profondément attiré. Pour après travailler... ce qu'il y a de plus noir dans la nature humaine. Parce qu'on le sait très bien, vous le savez, vous avez écrit un bel essai sur le sujet, elle gratte au plus profond la nature humaine dans ce qu'elle a de plus exécrable.
Je me posais la question, où vous mettez le curseur? Parce que par exemple, si on prend Sarah Phelps, qui a adapté pour la BBC, effectivement, Agatha Christie, de façon extrêmement sombre, ou alors les petits meurtres d'Agatha Christie créés par Sophie Réville, qui était là dernièrement. Est-ce que vous avez essayé de faire un peu des deux? Est-ce que vous avez situé votre Tantalis clairement d'un côté?
Alors, pas du côté de l'aspect sombre
de
Phelps, plutôt les petits meurtre d'Agatha Christie, c'est plutôt de ce côté-là, ou alors les adaptations cinématographiques de Pascal Thomas, Le Crime et notre affaire, par exemple, qui m'a profondément marqué. Après, ce qui m'a profondément inspiré, il faut en parler, c'est l'humour d'Agatha Christie. C'est cette ligne claire avec des phrases courtes, avec des dialogues qui en disent long sur la psychologie des personnages, et c'est cet humour. J'essaye très modestement de m'inspirer de cet humour-là, mais c'est cet understatement britannique, cet art du sous-entendu, cette finesse psychologique sous l'humour assez parfois assez vif d'Agatha Christie, c'est ça qui me touche profondément.
Et alors justement, je vais terminer comme ça. J'ai une petite idée de votre réponse, mais vous êtes plutôt Marple ou Poirot?
Non, je suis beaucoup plus touché par Miss Marple. Moi, j'adore cette détective en fauteuil qui, par sa finesse psychologique, sa fine connaissance de son village, arrive à résoudre ses énigmes. Et puis, j'aime tout le décorum de ce petit village fictif, de cette Angleterre fantasmée. Moi, qui n'existe pas, il n'a peut-être jamais existé, cette Angleterre de Miss Marple.
Non, mais on la voit pour le coup dans les adaptations de David Suchet. On visite d'une certaine façon les manoirs, les cottages. Et elle semble exister.
Exactement, on la voit, oui, c'est vrai, dans ses adaptations avec David Suchet. Mais oui, je suis beaucoup plus du côté de Miss Marple. J'aime ce côté amatrice. Et j'aime bien ce côté... voilà, elle a l'air assez innocente, inoffensive. Et pourtant...
Il ne faut pas s'y fier, comme votre Tantalis. Merci beaucoup, Ali Rebeilly.
Merci, Sonia Fairchak.
Je rappelle que votre volume numéro 3 est en préparation.
Il sortira pour le centenaire du Masque, des éditions du Masque. Le Masque, vous le savez évidemment, c'est l'éditeur historique d'Agatha Christie. Donc voilà.
Merci Ali Rebeilly.
Merci.
C'est la fin de notre deuxième épisode d'Un thé avec Agatha Christie. Avec les voix de Perrine Marillier, Anouk Bigarnet-Marillier, Catherine Pietri et Frédéric Constant. Et merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Guillaume Giraud à la réalisation, Florian Dorimini et Guillaume Roux à la technique, programmation musicale Djoubaka, Emmanuel Lucioni à l'INA pour la documentation et attaché de production Marius Serriès. On se retrouve demain à 16h sur France Inter. Notre troisième épisode d'Un thé avec Agatha Christie sera intitulé « Famille décomposée ». Nous parlerons lignée, suspicion, relations toxiques et poison.